C'est ainsi que Joseph poursuit sa longue traversée du désert et qu'il va rester encore 2 longues années dans les geôles de Pharaon. Joseph a maintenant 30 ans. Il avait 17 ans quand il a eu ces 2 rêves qui avaient attisé la haine et la jalousie, ou la jalousie et la haine de ses frères. Depuis, bien des années ont passé, surtout des années d'épreuves, de trahisons, de souffrances multiples et variées qui ont amené Joseph dans les prisons de Pharaon. Alors que Joseph est en prison, le Pharaon d'Égypte fait 2 rêves. Dans le premier rêve, il y avait 7 vaches belles et grasses qui sont mangées par 7 vaches vilaines et maigres. C'est les 4 premiers versets du chapitre 41. Dans le deuxième rêve, il y avait 7 épis de blé gras et beau qui sont engloutis par 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Est. Versets 5 à 7. Au réveil, le matin, Pharaon est troublé. Troublé par ses 2 rêves, et il fait appeler tous les mages, tous les sages d'Égypte, afin qu'ils les lui interprètent. Mais aucun n'est en mesure de donner une interprétation à Pharaon. Et je note ici que ces personnages, je note ici l'honnêteté de ces personnages, qui aurait pu très bien inventer quelque chose pour s'en sortir et éviter la colère du roi. Et c'est ici, au verset 9, que nous retrouvons notre échanson, qui, devant les similarités de ce qu'il a vécu 2 ans plus tôt dans les prisons de Pharaon, recouvre la mémoire et se souvient de Joseph. Il raconte alors à Pharaon comment Joseph, le jeune Hébreu, avait interprété son rêve et celui du panetier, tous les 2 mis aux arrêts par Pharaon, et comment ces interprétations s'étaient avérées être justes. Verset 13, « Tout est arrivé exactement selon l'interprétation qu'il nous avait donnée », dit l'échanson au Pharaon. Le Pharaon écoute son échanson. L'aurait-il écouté 2 années plus tôt, quand il sortait tout juste de prison? Et c'est ainsi que Joseph se retrouve devant Pharaon, non sans avoir auparavant été rendu présentable. Alors ce n'est pas encore la libération de Joseph. Elle viendra peut-être, si Pharaon le veut, si Joseph obtient la faveur du roi. Joseph se tient donc devant Pharaon qui lui explique que personne n'a su interpréter son rêve et qu'il a appris que lui le pourrait. Verset 15. La réponse de Joseph au roi est pleine d'humilité. « Ce n'est pas moi, dit Joseph, c'est Dieu. » Verset 16, « C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Il est facile de s'attribuer le mérite qui revient à Dieu. Il est si facile de tirer la couverture à soi. Il est si facile de voler un peu de la gloire qui revient à Dieu. Mais Joseph est droit dans ses bottes, ou plutôt dans ses sandales. C'est un homme intègre. C'est un homme qui a à cœur de rendre un bon témoignage de son Dieu. Bien des siècles plus tard, un autre Hébreu va lui aussi interpréter les rêves d'un roi après avoir consulté Dieu. C'est Daniel, bien évidemment, à la cour du roi Nabuchodonosor. Si nous avions fait le constat de l'absence de la mention de Dieu au début de l'histoire de Joseph, ce n'est plus le cas maintenant. Le mot Dieu, dans ce seul chapitre 41, est mentionné à 9 reprises. Dieu est clairement au cœur de notre histoire. Dieu est clairement aux manettes de la vie de Joseph. Et Pharaon raconte ses rêves à Joseph. En réalité, dit Joseph, après avoir écouté le récit des deux songes, les deux rêves n'en font qu'un, dit-il. Et c'est Dieu qui indique au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de famine, 7 années, verset 30, qui réduiront le pays à rien. On ne verra plus aucune trace de l'abondance dans le pays, tant la famine sera sévère, verset 31. Et si le rêve s'est répété 2 fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu, dit Joseph, et que Dieu va se hâter de la faire, de le faire, verset 32. Et Joseph continue, « Maintenant que Pharaon trouve un homme intelligent et sage, et qu'il le nomme intendant de l'Égypte, que le Pharaon agisse et qu'il nomme des inspecteurs dans le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui arrivent, qu'il fasse sous l'autorité du Pharaon des réserves de blé et de vivres dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces vivres seront en dépôt pour le pays, en vue des 7 années de famine qu'il y aura en Égypte, afin que le pays ne soit pas décimé par la famine. Profitez des 7 années d'abondance pour faire des provisions, pour prélever 1/5 des récoltes, pour les stocker en vue des 7 années de famine. Le pharaon est conquis par ce qu'il entend. Non seulement lui, mais toute sa cour, verset 37. Joseph voulait que Pharaon comprenne que c'est Dieu qui donne l'interprétation, et à l'évidence, le pharaon l'a compris. Verset 38, « Pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci qui a en lui le souffle de Dieu ?» dit Pharaon aux gens de sa cour. Et c'est ainsi que Joseph va être libéré. S'il n'avait pas obtenu la faveur de Pharaon, il aurait été renvoyé en prison, peut-être même mis à mort. Mais Joseph est maintenant nommé intendant de la maison de Pharaon, verset 40, intendant de toute l'Égypte, verset 41, verset 43. Seul Pharaon sera au-dessus de lui, verset 40. L'autorité de Joseph est telle, sera-t-elle, que sans sa permission, verset 44, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Tout le peuple, verset 40, tout le peuple d'Égypte dépendra de ses ordres. Et pour concrétiser cette élévation de Joseph, Pharaon retire de son doigt la bague à cachet et la met au doigt de Joseph. C'est le verset 42, il le fait revêtir d'habits de fin lin et lui met un collier d'or au cou. Puis il le fait monter sur le second de ses chars. Le premier, c'était peut-être une Lamborghini, et puis le second, c'est la Ferrari, vous voyez, mais c'est quand même, c'est le second, de ces chars pour parader au cri de Abrek. Il paraît qu'on ne sait pas la signification exacte de ce mot. Peut-être c'est un mot égyptien, peut-être qu'il veut dire attention. Certains ont fait le rapprochement avec un mot hébreu, Berek, qui veut dire genou. Et le sens serait alors ici à genoux, quand Joseph passe dans les villes. Quel retournement de situation! Joseph est passé en quelques heures de la prison à la case départ, et il a touché bien plus que 20 000. Pour parfaire la promotion de Joseph, Pharaon va lui donner un nom égyptien imprononçable, Safnat Panea. Là aussi, la signification est pas très sûre. Peut-être que ça veut dire soutien de la vie, salut du monde, chef des scribes. Enfin, vous voyez, ça peut dire vouloir dire beaucoup de choses. Et puis Pharaon lui donne aussi une épouse égyptienne, Asenet, la fille d'un prêtre d'On, une ville située à 10 kilomètres au nord du Caire, et qui s'appellera un peu plus tard dans l'histoire Héliopolis, la ville du soleil. Joseph, l'esclave hébreu, devient égyptien. Quel retournement de situation. Pour Joseph, c'est la fin d'un long chemin de souffrance. Après la pluie, c'est enfin pour Joseph le beau temps. Parfois, Dieu permet l'épreuve dans la vie de ses enfants. Parfois, il les fait passer par des chemins étroits, des chemins difficiles, des chemins où les circonstances plaident en faveur de l'abandon de Dieu. Et la question que l'on peut se poser alors est la suivante. Mais dans quel but? Mais pourquoi faire? Dieu n'est-il pas assez bon, assez puissant pour garder ses enfants des chemins difficiles? La réponse à ces questions ne concerne ni la bonté de Dieu, ni sa puissance, mais premièrement la réalité du monde déchu dans lequel nous vivons. Le fait que pour l'heure, Dieu tolère le mal et la souffrance dans ce monde. Mais un jour, Dieu éradiquera tout cela. Il en a la puissance. Un jour, Dieu jugera le monde et le péché. Dans sa bonté et parce qu'il nous aime, il a déjà pourvu en Jésus la solution pour régler le problème du mal et de la souffrance dans nos vies et dans ce monde. Un jour, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses que nous connaissons aujourd'hui auront disparu. Un jour, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais pour l'heure, rien n'est encore comme cela devrait être. Pour l'heure, nous vivons dans un monde déchu, profondément marqué par le péché et toutes ses conséquences. Dieu est-il dépassé par les événements? Dieu n'est-il pas assez bon ou assez puissant pour garder ses enfants des chemins difficiles? La réponse à ces questions ne concerne ni la bonté de Dieu, ni sa puissance, mais deuxièmement la réalité et la réalisation de sa volonté. C'est-à-dire le fait que Dieu accomplit son plan, ses desseins, le fait qu'il le fait dans un monde déchu, mais aussi dans la vie de ses enfants et au travers de leur vie, le fait qu'il le fait parfois en se servant des circonstances difficiles inhérentes au monde déchu dans lequel nous vivons. Il est celui qui fait concourir toutes choses, les bonnes et les mauvaises, les joyeuses et les douloureuses, pour le bien, c'est-à-dire le salut, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Et il est bon de rappeler ici que dire cela, dire que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants, dire que Dieu se sert des circonstances difficiles de nos vies, ne veut pas dire que Dieu cautionne le mal, ne veut pas dire que le mal devient bien, ne veut pas dire que la souffrance est bonne. Ces choses sont et resteront toujours des anomalies dans la création de Dieu. Il se trouve que pour l'heure, dans sa souveraineté, Dieu les tolère encore. Et il s'en sert même parfois pour accomplir ses desseins. Vous l'avez compris, la notion clé de notre passage et de toute la vie de Joseph, d'ailleurs, c'est la souveraineté de Dieu. Nous croyons avec la Bible que Dieu est souverain. Nous croyons qu'il tient toute chose dans sa main. Toute chose, c'est-à-dire notre monde déchu, c'est-à-dire tous les dirigeants de ce monde, des nations, les rois, et même les présidents, même aux États-Unis. Il tient la vie de ses enfants dans sa main. Toute chose. Dimanche dernier, nous avons déjà parlé de souveraineté et aussi de providence. Et je vous avais donné les définitions suivantes. La souveraineté de Dieu, c'est le fait que Dieu est au-dessus de tout et que tout lui est soumis. La providence divine, c'est le fait que le hasard n'existe ni dans ce monde, ni dans notre vie, parce que Dieu est souverain et qu'il dirige toute chose pour la réalisation de son plan. Comment se manifeste la souveraineté de Dieu dans notre texte? Elle se manifeste dans la vie de Joseph. Une vie conduite par Dieu, une vie préparée par Dieu, une vie dont Dieu contrôle les tenants et les aboutissants pour accomplir son dessein. Comment se manifeste la souveraineté de Dieu dans notre texte? Elle se manifeste ensuite dans la nation égyptienne, une nation dont Dieu tient la destinée dans sa main, une nation dont Dieu contrôle l'économie, dont Dieu contrôle les récoltes, une nation dont Dieu tient le roi dans sa main pour accomplir ses desseins. Et tout cela dans quel but? Nous l'avons dit, celui de la réalisation de ses plans, de ses desseins, de sa volonté. Et quel est-il, ce plan, précisément dans notre texte? C'est d'abord celui de sauver son peuple de la famine à venir. Et cela, nous le verrons dans les chapitres qui suivent. C'est celui d'accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham. C'est celui de préparer le salut de son peuple. Et puis aussi, par extension, de préparer la venue du Messie qui viendra de ce peuple qui va être sauvé de la famine. De préparer la venue du Messie pour le salut de quiconque croit en lui. Et il fallait pour cela que Joseph devienne vizir d'Égypte. Il fallait pour cela qu'il puisse un jour accueillir ses frères venus chercher des provisions en Égypte parce qu'il n'y avait plus rien à manger en Canaan. Il fallait pour cela que Joseph soit vendu comme esclave et finisse dans les prisons de Pharaon pour être un jour élevé, comme nous venons de le voir. Les chemins difficiles par lesquels Dieu a fait passer Joseph étaient tous dans la main de Dieu. Il en connaissait le commencement et la fin. Et il dirigeait toutes choses pour accomplir sa volonté. Y avait-il d'autres chemins possibles? Peut-être. Seul Dieu le sait. Ce que nous savons, et c'est cela notre part, c'est qu'il a conduit les choses ainsi. Qu'en est-il de moi et qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de ma vie et qu'en est-il de votre vie? Qu'en est-il de mes difficultés et qu'en est-il de vos difficultés? Échappe-t-elle au contrôle de Dieu? Que Dieu soit souverain sur la vie et les circonstances de Joseph, c'est facile à accepter. C'est une chose, et puis c'est la Bible quand même, après tout. Hein, c'est normal. Qu'il soit souverain dans ma vie, dans mes circonstances, dans mes difficultés, dans ce qui me fait mal. Qu'il soit souverain dans la vie de l'Église, même quand ça se passe pas tout à fait comme on voudrait. C'est encore autre chose, n'est-ce pas? Pourtant, soit Dieu est toujours souverain, soit il ne l'est jamais. La réalité, c'est que Dieu est toujours souverain. Toujours. Que je le sache ou pas, ça ne change rien. Que je le comprenne ou pas, ça ne change rien. Que je le vois ou pas, il est toujours souverain, que je l'accepte ou pas. Et parce que Dieu est souverain, je peux lui faire confiance en tout temps. Je peux croire en sa parole, en ses promesses, même quand les circonstances sont contraires. Je peux espérer contre toute espérance. Je peux croire que même les chemins difficiles sur lesquels Dieu me fait marcher n'échappent pas à sa souveraineté et font même partie de son plan pour ma vie. Et parce que je sais ces choses, parce que je sais que ma vie est dans les mains de mon Dieu, je peux être dans la paix, même au jour de l'épreuve, même au jour du chemin difficile, même au jour de la souffrance, et même au dernier jour, au jour de ma mort. Je peux être dans la paix, parce que Dieu tient ma vie et ma destinée dans ses mains. La vie de Joseph est un bel exemple de tout ce que nous venons de dire. Bien sûr, nous ne sommes pas Joseph. Bien sûr, Dieu n'attend pas de nous ce qu'il attendait de Joseph. L'histoire de Joseph est unique. C'est l'histoire du salut. C'est l'histoire de cette grande révélation de Dieu qui amène Jésus-Christ. C'est unique. Et ce n'est pas nous. Ceci dit, nous les chrétiens, nous les disciples de Jésus-Christ, nous sommes aussi le peuple de Dieu, nous sommes aussi le troupeau que sa main conduit, et Dieu n'est pas moins souverain aujourd'hui qu'au temps de Joseph. Qui peut dire ce que Dieu fait, veut faire et fera de ma vie si je lui fais confiance? Qui peut dire ce que Dieu fait, fera, veut faire de votre vie si vous lui faites confiance? Que ce soit de grandes ou de petites choses, l'importance n'est pas vraiment là. Elles seront la volonté de Dieu pour notre vie. Et comprendre cela, c'est un bien tellement précieux. C'est une aide tellement réelle au jour de l'épreuve, au jour des chemins rocailleux. C'est une aide tellement précieuse dans les bons comme dans les mauvais jours. Vous le savez comme moi, c'est souvent après coup que nous voyons comment toutes les pièces du puzzle fonctionnent ensemble, vont ensemble dans notre vie. Très souvent, quand nous avons le nez dans le guidon, nous sommes incapables de voir cela. Il faut du recul. Et c'est souvent quand nous regardons en arrière que nous comprenons alors un peu mieux parfois ce que le Seigneur nous a fait vivre. Parfois, Dieu nous fait la grâce de comprendre comment telle et telle pièce s'emboîte. Et puis, parfois, il nous demande simplement de l'accepter sans comprendre. Un jour, dans la gloire, je crois que nous comprendrons beaucoup de choses. Mais que nous comprenions ou pas les chemins sur lesquels Dieu nous fait marcher, c'est toujours à la confiance que Dieu nous invite et nous appelle. Faire confiance à celui qui est souverain, à celui qui tient ma vie, notre vie dans sa main, à celui qui tient la vie de notre Église dans sa main, à celui qui tient toute chose dans sa main et qui fait concourir toute chose pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Faisons-lui confiance. Il est en train d'accomplir sa volonté en nous et au travers de nous. Faisons-lui confiance. Il est toujours en train de nous préparer pour que nous puissions encore mieux le servir. Faisons-lui confiance, même quand nous ne voyons pas le bout du tunnel. Faisons-lui confiance parce qu'il est celui qui a toutes les pièces du puzzle dans sa main. Parce qu'il est le Dieu souverain. Amen.